Bonjour chers auditeurs de RLP, vous avez un nouveau rendez-vous avec l'histoire du Périgord et des Périgourdins présenté par les membres de la Société historique et archéologique du Périgord. Bien, nous allons aborder le thème de la protection et de la conservation du patrimoine. Et pour ce faire, j'ai invité
Patrick Palem, voilà, qui a travaillé pendant 40 ans dans le domaine de la restauration des monuments historiques. Bon, mon parcours a été au départ l'école d'architecture de Bordeaux, puis je suis rentré directement dans la société où j'ai dirigé la société depuis les années 90 jusqu'aux années 2020, on pourrait dire, où la société, pour une raison d'âge, je l'ai vendue à un groupe qui continue bien sûr l'activité.
Cette société, c'est donc la SOCRA.
Cette société, bien sûr, c'est la SOCRA.
Qui est connue dans le Périgord, mais connue nationalement aussi et internationalement maintenant.
Oui, on a eu la chance de côtoyer des monuments exceptionnels. Alors, aussi bien en France, que ce soit de Strasbourg à Marseille ou même en Bretagne, mais aussi à l'international avec des chantiers au Japon, en Israël, en Ouzbékistan, au Kurdistan, et j'en passe. Donc c'est une chance pour nous.
Voilà, donc si vous le voulez bien, nous reviendrons sur votre expérience personnelle un peu plus tard dans l'enregistrement, mais on va essayer d'aborder le thème général de la conservation du patrimoine. Je voudrais d'abord vous demander à quand remonte le souci de conserver le patrimoine architectural et artistique de manière plus générale.
Tout à fait, c'est relativement récent, mais bon, d'abord, il faut parler des architectes, parce que nos monuments ont d'abord été construits avec quelques grands architectes, surtout à partir du XVIe, où la notion d'architecte est arrivée au XVIe siècle, à la Renaissance. Entre autres, Philibert Delorme, qui a été le constructeur du château d'Annette et du château de Fontainebleau. Alors le château de Fontainebleau, bien évidemment, a eu plusieurs architectes, puisque sa construction s'est étalée sur plusieurs siècles. Mais c'est lui qui a créé ce fameux escalier en fer à cheval à Fontainebleau, donc c'est important. Et puis aussi Villers-Cotterêts, je citerai que ces trois exemples, mais Villers-Cotterêts étant aujourd'hui le projet présidentiel, c'est-à-dire le choix du président, qui est déjà ancien, c'était de restaurer, de remettre en état ce lieu qui est dans l'Aisne, dans le nord, dans les Hauts-de-France, et qui est un magnifique château. Après, il y a André de Cerceau, bien sûr, qui a été un théoricien, on est toujours dans le 16e, et à qui on doit surtout les premiers relevés que l'on a dans les archives des monuments. Puis au XVIIe siècle, vous avez compris qu'il y a eu un grand monument qui s'appelle Versailles, avec Charles Levaux jusqu'à Ardouin-Mansart. Plusieurs architectes ont côtoyé ce lieu et l'ont modifié. Et enfin, surtout, je reviendrai sur le 18e, où là, où nous avons vu Soufflot avec le Panthéon. C'est d'actualité aujourd'hui avec Joséphine Baker qui va entrer au Panthéon. Donc ce sont les grands architectes qui ont, pour l'instant, reconstruit des éléments, mais qui ne restauraient pas. C'est seulement vers 1790 que l'Assemblée constituante crée la Commission des monuments. Il faut imaginer qu'à cette époque, certains monuments étaient démolis, vendus pour récupérer des matériaux. Et malgré un appel de l'abbé Grégoire en 1794 qui demandait de restaurer les monuments historiques et de conserver comme une partie constitutive de l'identité nationale, ça a été quand même un choix. Bien sûr, la Révolution est arrivée. Vous savez comme moi que toutes les têtes, en particulier sur les églises, ont souvent été coupées. Et c'est vrai qu'on est dans cet esprit-là, parce que tout à l'heure, on va parler de la reconstruction, et il faut bien partir de bases qui disent que c'était déjà démoli. Alors, il faut imaginer cette époque, comme je vous dis, certains monuments étaient démolis, vendus, récupérés. Mais surtout, à partir de 1830, sous Louis-Philippe, donc, on structure la commission en créant le poste d'inspecteur des monuments historiques. Et on voit apparaître les premiers acteurs importants de la restauration, donc Prosper Mérimée, que l'on connaît aussi pour sa littérature, et Viollet-le-Duc, bien sûr, qui a été, Prosper Mérimée étant un des premiers inspecteurs de cette commission, et Viollet-le-Duc aussi comme architecte qui a travaillé évidemment sur beaucoup d'édifices, mais on va y revenir après parce que c'est un sujet assez important. Donc ils ont commencé à faire le relevé sur tout le territoire français des monuments méritant d'être protégés et restaurés. Et sur cette liste, le premier, bien évidemment, c'est Notre-Dame de Paris, la cathédrale. Viollet-le-Duc a donc été, on le sait, très contesté. On lui a reproché de préconiser la reconstruction plus que la restitution. On cite souvent ces édifices, Carcassonne, Pierrefonds et bien d'autres. Mais il faut imaginer qu'il est né dans cette époque de destruction. Aussi, un exemple, une sculpture était dégradée, on en refaisait une plus représentative qui correspondait plus au moment. On n'avait pas le souci de restaurer, on avait le souci de restituer. Donc c'était une idéologie. C'est à partir de cette idéologie qu'il a été élevé. Et on en parlera tout à l'heure peut-être sur le Périgord avec Abadi qui a été aussi un de ses élèves. Donc c'est vrai qu'il a des circonstances atténuantes, on pourrait dire. Mais on lui reconnaît quand même que s'il n'était pas intervenu sur certains monuments, ils auraient disparu. Après, il y a eu toute une... Ça a été légiféré. On sait que la première loi sur la protection monuments historiques élargie au patrimoine urbain, rural, industriel, avec en particulier les ouvrages de Le Corbusier, de beaucoup d'architectes contemporains, date de 1913. Le corps des architectes de bâtiments de France, lui, a été créé en 1946. C'est très récent, on se rend compte que les dates sont très proches. Puis vient en 62 la loi Malraux sur la création des secteurs sauvegardés, qui a apporté effectivement une protection plus grande sur tout un quartier. Et puis les architectes en chef, qui ont commencé leur carrière qu'à partir de 1893, qui, eux, sont chargés des monuments de l'État. Je pourrais juste signaler, pour terminer, sur la législation, les deux chartes qui sont évidemment la bible des restaurateurs et des architectes, qui sont la charte d'Athènes, qui a été rédigée en 1931, qui préconise de respecter l'intérêt historique et esthétique du passé de toute époque. Puis la charte de Venise en 64, qui rajoute que les apports de toute époque doivent être respectés et que l'intégration d'un élément complémentaire d'aujourd'hui, entre guillemets, doit s'intégrer harmonieusement en se distinguant des parties originales. C'est une volonté de différencier pour qu'on ne trompe pas le visiteur. Voilà un petit peu l'esprit de la restauration et l'origine de la restauration.
Merci d'avoir cité tous ces noms. Et pour ma part, j'ai fait un travail à la Chape il y a quelques années sur Gabriel Bouquier.
Oui.
Et Gabriel Bouquier, le conventionnel originaire de Terrasson, a été à l'origine, avec David et un autre peintre dont j'ai un peu oublié le nom, ils ont été à l'origine de la loi qui a créé le musée du Louvre, qui ne s'appelait pas le Louvre à l'époque, mais enfin, ils ont récupéré ce palais royal, oui, pour qu'il devienne propriété du peuple et qu'il soit exposé des œuvres dignes de l'être. Et donc, les lois Bouquier-David ont été les premières, un petit peu, sur la qui ont mis en place cette valeur nationale du patrimoine.
Oui, tout à fait. Il y a eu des exemples très innovants aussi à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'on ne retient que les meneurs, entre guillemets. Mais autour de ça, il y avait toute une... Alors, des architectes, c'était le début de l'architecture, mais qui ont participé à cette conservation en s'offusquant quand on avait des démolitions, des ventes. On voit bien dans certains textes,
oui,
Victor Hugo, le premier, il y a beaucoup de textes sur lesquels on s'est, en particulier... sur du bâtiment qui était contemporain de l'époque, pas simplement le bâtiment ancien. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience importante à cette époque-là.
Tout à fait. Et c'est vrai que, bon, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, c'est vraiment l'œuvre sur le thème qui nous préoccupe aujourd'hui. J'avais une question à vous poser, qui est peut-être la question piège. A-t-on une idée de savoir si ceux qui ont laissé des œuvres à la préhistoire dans les grottes qui sont nombreuses autour de nous, est-ce qu'ils avaient cette idée de conservation et de longue durée ? Ou est-ce que ça a été un hasard que les œuvres soient encore là ?
Alors je crois qu'effectivement, bon, évidemment, l'édifice lui-même, il était naturel déjà, donc les architectes sont limités. Mais les artistes préhistoriques qui ont orné par exemple Lascaux, ou bien d'autres sanctuaires, parce que ce sont des sanctuaires, étaient guidés par une recherche spirituelle. Et ils n'hésitaient pas à recouvrir une gravure par une autre gravure. Le but, c'était de correspondre au thème de la spiritualité qu'ils avaient. Et c'est vrai que la grotte n'était pas habitée au demeurant, donc elle subissait beaucoup moins d'altérations. Et en plus, ce qui a permis de conserver, comme par exemple la grotte de Chauvet, c'est qu'il y a eu des éboulements qui ont rapidement bouché l'entrée. Donc, sur l'exemple de Chauvet, pendant 20 000 ans, personne n'est rentré dans cette grotte. Et les seules altérations que l'on a vues, évidemment, c'est lié à la pénétration de l'homme dans les grottes, avec toutes les maladies et les micro-organismes que vous connaissez et que l'on connaît sur Lascaux, qui ont pour l'instant, pour certaines grottes, ont un peu échappé parce qu'il y a eu beaucoup moins de visiteurs, mais c'est tous ces micro-organismes, c'est un phénomène d'époque. Vous voyez, aujourd'hui, on le vit, nous, en tant qu'humains, avec la Covid, et je pense que ça existait déjà dans ces grottes, mais par des micro-organismes qui ont mangé et recouvert les peintures. Mais ce qui est important, surtout, dans cette époque-là, et qu'on oublie souvent de préciser, on parle de l'histoire, mais c'est le talent exceptionnel que ces artistes avaient. Et c'est vrai que ça, il faut le retenir. Aujourd'hui, c'était l'art contemporain d'autrefois. On ne va pas le comparer à des tags, même si c'est très honorable de faire des tags. Mais je pense qu'il y avait une qualité artistique qui est vraiment exceptionnelle. Et c'est vrai qu'on a souvent voulu essayer de comprendre ce qui était mis, mais on ne l'a pas regardé comme une œuvre d'art.
Oui, et puis des choses comme la perspective ou le mouvement, que certains critiques ont dit avoir été retrouvés beaucoup plus tard, ouais. Ça existait déjà. Hein. Ah, quand oui. On voit les chevaux de Lascaux, on sent bien le mouvement, on entend presque le galop.
Vous avez sur ce thème, je pense, je ne suis pas un spécialiste de la préhistoire, mais j'ai participé, et j'étais même le maître d'œuvre et le mandataire de la copie de la grotte Chauvet. Donc j'ai eu la chance de rentrer dans toutes ces cavités. Et c'est vrai qu'on parle même de l'invention du cinéma, puisque quand on se promène avec une bougie et qu'on voit la fresque où il y a les têtes de lions, si on suit les yeux, on sent une perspective, on a l'impression qu'il y a un mouvement. Bon, est-ce que c'est de l'imagination? Est-ce que c'est réel? Ça, c'est pour chacun, c'est différent. Mais c'est vrai que c'est un sujet où on écrit beaucoup, mais... Je pense que ça nous laisse le choix. On a le choix de penser ce qu'on veut sur ces éléments-là. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est cette qualité artistique extraordinaire.
On va faire une petite pause musicale, si vous voulez bien.
There comes a time where we should be together, united in our fight to make things better. Our world is here, but will not be forever, depending on our will to change the matter. Do-do-do-do. Do-do-do. This is a song of hope. Do, 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 do. This is a song of hope. If one could be for all and all could be for one, together we are better under the sun. Our own responsibility relies on our ability to save the beauty that we live in and the life that we were given. Ooh, doo-doo-doo. This is a song of hope. Thank you.
Bien. Et alors, qu'en est-il en Périgord de la restauration du patrimoine? Quels ont été les grands noms des restaurations en Périgord?
Alors c'est vrai qu'en Périgord, vous avez compris que c'est un territoire qui est riche, puisqu'on a plus de 850 monuments historiques, il y a trois villes qui sont pays d'art et d'histoire, enfin c'est très riche. Donc on a eu des architectes, bien évidemment, qui ont marqué le Périgord, comme Louis Catoire, même s'il a été accusé d'avoir été un peu trop interventionniste sur la cathédrale, avec son confrère architecte Honoré Rocher, qui ont démoli un petit peu une partie de la cathédrale. Mais c'est quelqu'un de marquant, puisque la ville de Périgueux est encore influencée par l'architecture de Catoire. Et puis, celui qui a peut-être été le plus connu, c'est Paul Abadie, qui a hérité de la philosophie de Viollet-le-Duc, parce qu'il a travaillé sur Notre-Dame avec lui et sur Saint-Cernin de Toulouse. Et il est intervenu, bien sûr, en Dordogne, sur de nombreux monuments. Je n'en citerai que deux ou trois, mais l'église de Bergerac, bien évidemment la cathédrale, mais, et l'abbatiale de Brantôme. Donc c'est eux qui ont marqué aussi le paysage. Et par la suite, nous avons eu les architectes qui se sont succédés, comme Paul Boès-Vivald, Froidevaux, et puis tous les architectes en chef qui ont succédé, qui ont un peu marqué le paysage. Mais il ne faut pas retenir que les architectes qui ont orienté la restauration. On oublie d'autres acteurs essentiels que sont les entreprises de restauration du patrimoine. C'est vrai que je prêche un peu pour ma paroisse, même si maintenant je n'ai plus d'entreprise. Et en Dordogne, surtout, nous sommes riches dans ce domaine. Certaines entreprises sont intervenues régulièrement sur tout le territoire national et même à l'étranger. Ces entreprises, elles voient le monument en contact direct avec les compagnons, eux, et les restaurateurs, ils découvrent tous les détails d'un bâtiment ou d'une œuvre et s'ils s'en imprègnent de ce savoir-faire que les compagnons qui les ont précédés sur ces édifices ont laissé. C'est vrai que c'est aussi cet angle-là, c'est toujours, je le dis, le geste et la tête, bien évidemment. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier le geste parce que les traces que l'on a, c'est quand même les entreprises ou les restaurateurs, les compagnons qui ont laissé ces éléments-là.
Et c'est vraiment le lien entre la technique pure et le côté artistique.
Exactement.
Ils ont vraiment les deux.
Je pense que les deux éléments sont importants, le côté artistique et philosophique de la restauration, mais surtout la technique. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque, comme dans beaucoup de métiers, c'est la technique, effectivement, parce que pour avoir de la technique, il faut pratiquer. Et pour pratiquer, il faut avoir des monuments que l'on restaure.
Alors, pouvez-vous maintenant un petit peu partir de votre expérience personnelle et nous relater votre expérience personnelle lorsque vous étiez à la SOCRA?
Oui, avec plaisir. C'est 40 ans. 40 ans d'activité, plus de 5000 monuments en France et à l'étranger sur lesquels on est intervenu, la SOCRA. C'est une passion plus qu'un métier parce que je suis rentré dans cette société. Celui qui l'avait créé s'appelait Claude Bassier. C'était quelqu'un qui avait travaillé sur Lascaux, qui avait fait le premier relevé de Lascaux, qui était beaucoup moins précis évidemment que ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui avait le mérite d'exister. Il avait recollé une écaille en particulier sur la salle des taureaux. Et par la suite, Socra a continué de travailler pour nettoyer en particulier quand la maladie est revenue. Donc on travaillait sur les objets archéologiques, donc tous les grands sites que vous avez en France, Vaison-la-Romaine, tous ces endroits-là, Lyon, toutes ces mosaïques étaient déposées et restaurées par la SOCRA, qui était le seul restaurateur qu'il y avait sur le territoire. Petit à petit, se sont créés des ateliers, en particulier à Lyon et dans d'autres villes, et à Arles, qui ont permis aussi de travailler sur les objets archéologiques. Donc on a continué cette activité, et moi j'y suis rentré donc en 1980, après l'école d'architecture de Bordeaux, où on a ouvert notre domaine de compétences sur les monuments, les grands monuments, en bronze en particulier, et puis sur les sculptures pierre. Et là, on a travaillé sur, je pense, les trois quarts des monuments et de cathédrales, les portails, sur la partie sculpture toujours. Cathédrale de Nantes, de Strasbourg, enfin beaucoup de Bordeaux, évidemment, où on a restauré plusieurs portails. Voilà, donc ça a été un peu un tour de France où on a effectivement développé des techniques comme le laser. On a participé dans des programmes européens au développement du laser pour le nettoyage.
Laser de nettoyage,
voilà, qui a été très en vogue, qui l'est un peu moins aujourd'hui parce qu'évidemment ça a un coût et c'est un peu plus difficile. Il reste très, très utilisé pour les objets, mais pas tellement sur les objets, sur les monuments, parce qu'il y a toujours un peu un contexte financier qui est économique qui est toujours présent. Donc voilà, donc ça a été ma carrière. Et après, les grands chantiers qu'on a pu imaginer, c'est pour les mosaïques, un de notre activité, c'est ben, par exemple Ghana Gobi dans les Alpes de Haute-Provence, le plus beau pavement du Moyen-Âge que l'on a, qui est exceptionnel, qui est daté. Donc là, on n'a pas de souci avec une mosaïque qui est un peu comme l'architecture moyenâgeuse, qui est très libre, très naturelle, qui n'est pas ordonnée comme l'époque romaine, avec l'école rhodanienne, qui était très stricte, géométrique, avec quelques, juste l'embléma qui était figuratif, mais tout le reste était relativement sobre. Les œuvres en pierre, évidemment, tout ce qui est sculpture pierre, donc je parlais tout à l'heure des portails de certaines cathédrales, mais aussi dans des petits villages. Il y a aussi une émotion dans certains villages. On a travaillé, entre autres, aussi sur des peintures, par exemple en Israël, à Abu Ghosh, où on a restauré des peintures, peintures murales, les peintures que l'on a déposées sur des sites comme Vaison-la-Romaine, Vézina aussi, bien sûr. Tout ça est important. Et après, ça a été le départ sur les grands monuments en bronze. Là, on a vraiment, je crois, été le leader au niveau national sur tout ce qui est grandes sculptures en bronze. Donc l'archange du Mont-Saint-Michel, même si c'est du cuivre repoussé, on est bien d'accord, mais tous les monuments qu'on peut imaginer, si je parlais de Paris, je dirais les fontaines de la Concorde, la statue de la République, le lion d'enfer Rochereau, et je vais pas continuer dans cet esprit-là. Et surtout, j'ai développé, là c'est à titre personnel vraiment, une envie de développer le côté artistique et contemporain. Donc on a restauré de très belles œuvres contemporaines, récemment, juste avant que je parte, comme des Miro, des Calder, des Rodin, des Mayol, des Aouki, qui ont été restaurés avant d'être vendus pour certains, par les collectionneurs, et aussi nous avons participé à la création d'œuvres contemporaines. Donc ça, c'était important avec des artistes, et ça, ça a été un peu un renouveau et qui avait un intérêt, c'était une continuité dans le domaine artistique.
Oui, on est de la conservation vers la prospective et la création.
Tout à fait, c'est vrai, il y a toujours un lien, parce qu'on est toujours dans le domaine de l'art et de la même.
Voilà. J'ai le souvenir d'avoir visité la Socra, vous en étiez le guide de cette visite, et tout le monde était fort bien entouré, puisqu'on avait les 12 apôtres de Notre-Dame qui étaient en attente de lifting. Et c'est un souvenir très important pour moi, et un souvenir aussi qui me permet de glisser vers le thème que je souhaitais aborder, qui est celui de la sensibilisation du public et de la jeunesse à tout ce qui est conservation du patrimoine et valeur du patrimoine.
Effectivement, vous avez raison, c'est ce que vous dites. Ça a été un choix professionnel, c'est d'ouvrir les ateliers, dans la mesure du possible, parce qu'il y a certaines, évidemment. Parfois, on avait des œuvres qui étaient tellement recherchées que c'était difficile d'annoncer avant. On attendait qu'elles partent pour pouvoir le proposer. Mais les visites, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Il faut qu'on s'intègre dans le milieu dans lequel on est. Donc c'est normal que les Périgourdins puissent bénéficier de la vision des quadriges du Grand Palais. Récemment, les sculptures à Versailles, de la Chapelle Royale en plomb qui... Et surtout, il y a eu, malheureusement ou heureusement, je dirais le côté heureusement, je vous dirai tout à l'heure pourquoi, malheureusement, cet incendie de Notre-Dame qui a fait que tous les apôtres ont été déposés quelques jours avant, par chance. C'est pour ça que je dis heureusement, parce qu'on a pu les préserver. Et ça a entraîné un combat médiatique extraordinaire. C'est-à-dire que nous avons eu un peu toutes les télés du monde. Des États-Unis, je me souviens d'une télé américaine qui est arrivée en avion à Bordeaux, qui a pris un taxi, qui a filmé pendant 2 heures, ils sont repartis aux États-Unis. Bon, ça a été pire que le Festival de Cannes. Je pense à un moment donné, on était dans un monde irréel, quoi. Donc, ça a participé, toute cette communication, à l'intérêt pour le patrimoine. Et c'est là où il y a le côté positif de cet incendie. Si on peut retenir quelque chose de positif, vous avez bien compris qu'on aurait tous préféré que ça n'arrive pas, mais il n'y a pas eu d'accident humain, il n'y a pas eu de disparition, il n'y a rien eu de au niveau humain qui soit grave. Mais ça a fait une prise de conscience dans le monde de l'intérêt du patrimoine. Et d'un seul coup, ça a permis aux jeunes de s'y intéresser. Donc on a fait beaucoup d'ateliers avec les écoles pour travailler sur ces domaines-là. Et en général, dès que la main est utilisée, parce qu'on a l'impression que les gamins, maintenant, dans le cadre des protections, des assurances, on ne les fait plus travailler avec leurs mains. Quand je dis travailler, ce n'est pas de l'exploitation, on est bien d'accord. C'est du travail artistique. Et je pense que c'est important, quoi, comme le développement. Pour moi, c'est important. La main reste quelque chose de très important. Et de toute façon, vous le savez comme moi, si la main marche, la tête marche.
Bien sûr. Et il faut de la proximité. C'est pour ça que certaines des obligations, exemple ne pas faire monter un mineur sur une échelle, c'est un petit peu surréaliste, quoi, quand on voit les métiers auxquels ils sont censés se former.
Oui, je pense qu'à un moment donné, il y a le bon sens qui doit l'emporter. Bien sûr, il y a des règles de sécurité qui sont très importantes, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut oser certaines choses. Je pense que nos générations ne doivent pas être, je vais schématiser, peut-être un peu offusquer quelques personnes, mais on ne vit pas dans du coton. À un moment donné, il y a un contexte environnemental qu'il faut prendre en compte. Je veux dire, vous ne pouvez pas monter sur une échelle, mais vous pouvez aller sur des rochers beaucoup plus dangereux dans la nature. Donc, à un moment donné, il faut quand même ce bon sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des précautions, loin de là. Mais on l'a en particulier en ce moment sur le plomb dans les bâtiments. Vous avez l'exemple de Notre-Dame de Paris, où on a l'impression que, comme pour Tchernobyl, le plomb s'est arrêté autour de la cathédrale. Mais non, il était sur les trois quarts de Paris, et en particulier toute l'île de la Cité. Sauf que la réglementation n'était pas la même. Là, aujourd'hui, vous avez une obligation de travailler 4 heures, de vous changer, etc. Oui. Ce qui est peut-être bien, mais qui est peut-être exagéré par rapport au risque encouru, parce que vous avez les mêmes en sortant dans la rue, quoi. Oui. Bon, on ne va pas refaire le monde, mais ça, je crois que c'est une évolution liée à un monde où, maintenant, on peut avoir des procédures, on est obligé d'avoir des assurances.
Et par rapport à la jeunesse, justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des filières de formation possibles pour travailler dans les métiers de la restauration ?
Alors effectivement, il y a plusieurs filières. Bon, vous avez évidemment le compagnonnage pour tout ce qui est bâtiment, qui est très intéressant, qui est une passe en plus. Ça vous permet de comparer entre les édifices qui sont réalisés dans du granit en Bretagne, dans du calcaire dans le sud-ouest, de comparer un peu les techniques. Donc ça, c'est très bien. Et vous avez des écoles, les écoles de restauration, l'école de restauration du patrimoine, qui est à Paris, qui forment des restaurateurs. C'est l'équivalent d'un Master 2. Mais ce qui manque, si vous voulez, je pense, dans tous ces métiers-là, c'est la pratique. Et c'est vrai que la pratique, elle se fait sur le terrain. Et dans le cadre, effectivement, j'ai arrêté la direction de la société Socra, que j'ai revendue. J'ai monté un institut du patrimoine dans lequel on fait la transmission de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont déjà une compétence dans le milieu. Le but n'est pas de concurrencer des instituts qui existent et qui forment depuis le début, mais de leur approcher la technique que l'on a sur le terrain, avec le complexe du chantier, c'est-à-dire sur le chantier. C'est-à-dire la notion de temps, quand même, qui existe, la notion de qualité, la notion de prendre en compte le contexte général d'un bâtiment. Si vous faites un enduit sur un mur en béton, vous le faites, on vous dit il est très bien, il tient, mais c'est pas que ça qui est important, c'est qu'il corresponde au reste du bâtiment et qu'il soit en adéquation. Donc je pense que ces formations sont importantes parce qu'elles sont essentiellement de la pratique. Ça peut être sur des patines, des dorures, etc. Mais il y a des écoles au départ qui vous donnent un diplôme, mais c'est comme si on ouvrait une porte, mais c'est après à vous de découvrir toutes les facettes du métier.
C'est un peu valable pour tous les métiers maintenant, et malheureusement, certains ont l'impression que quand ils vont sortir avec un beau diplôme, ils sortent avec la compétence qui va avec. Oui. Ce n'est pas toujours le cas. Ils ont des compétences théoriques, mais parfois, sur le plan de la pratique, qu'il manque.
Effectivement, je pense qu'il faut beaucoup d'humilité quand on commence à travailler. Il faut écouter, regarder, et après, effectivement, on fait des choix, on fait tout. On apprend de nos erreurs, de toute façon. Moi, j'ai dû encore mettre énormément, mais je pense avoir appris aussi. Et je pense que mais il faut un peu d'humilité face au travail. On est face à un travail qui est exceptionnel. Quand vous êtes sur des sculptures, où vous voyez le travail qui a été fait, qui est remarquable, vous avez un peu d'humilité obligatoirement, parce que sinon, vous pouvez pas faire la même chose, c'est impossible. Naturellement, vous n'y arrivez pas.
Alors, dernier thème que je souhaitais aborder, c'est comment concilier la conservation du patrimoine avec le développement, que ce soit le développement industriel, le développement économique, et même maintenant on parle de développement vert, des activités. Comment tout cela peut-il se concilier ?
Effectivement, je pense que le vrai souci aujourd'hui, c'est de conserver nos monuments. Et je pense que pour les conserver, il faut redonner un sens. Il faut redonner un sens au patrimoine, lui redonner une fonction dans le paysage. Ce n'est pas des objets comme dans un musée. Un château doit être utilisé, évidemment, avec des méthodes qui correspondent à l'utilisation qu'on doit en faire, qui soient aux normes aujourd'hui de quelque chose de cohérent. Mais il faut leur redonner un sens, et c'est la seule notion pour le garder, je crois, le patrimoine, parce que s'il est utilisé, on le gardera. C'est ce qui s'est passé avant la Révolution, où les bâtiments qui souffraient étaient démolis.
Eh bien, merci beaucoup. Merci Patrick Palem, et j'espère que nos auditeurs profiteront de cette émission.
Merci beaucoup à vous de m'avoir invité.